Radiolib présente. Un homme très recherché. De John Le Carré. Lu par Didier Veil.
Pour mes petits-enfants nés et à naître. La règle d'or est d'aider ceux que nous aimons à nous échapper. Friedrich von Hugel. Chapitre 1. On ne peut guère reprocher à un Turc, champion de boxe poids lourd, déambulant dans une rue de Hambourg au bras de sa mère, de ne pas remarquer qu'il est suivi par un grand échalas en manteau noir. Géant débraillé et jovial, au large sourire naturel et à la tignasse noire attachée en catogan, Big Melik, comme le surnommaient ses voisins admiratifs, marchait d'un pas désinvolte en occupant la moitié du trottoir à lui tout seul. À 20 ans, c'était une célébrité locale, et pas seulement pour ses prouesses sur le ring. Capitaine en titre des juniors de son club de sport islamique. 3 fois deuxième au championnat régional d'Allemagne du Nord sur 100 mètres papillon et, cerise sur le gâteau, gardien de but vedette de son équipe de football du samedi. Comme la plupart des géants, il avait plus l'habitude d'être regardé que de regarder lui-même. Autre explication au fait que le grand échalas ait réussi à le suivre 3 jours et 3 nuits durant sans se faire remarquer. Les regards des deux hommes se croisèrent pour la première fois, alors que Melik et sa mère, Leila, sortaient de l'agence de voyage Al-Houma, où ils venaient d'acheter des billets d'avion pour se rendre au mariage de la sœur de Melik dans le village familial près d'Ankara. Se sentant observé, Melik tourna la tête et se retrouva face à face avec un jeune homme de sa taille, d'une maigreur effrayante, à la barbe hirsute, aux yeux caves rougis, vêtu d'un long manteau noir assez ample pour 3 magiciens. Il portait un keffier noir et blanc autour du cou et une sacoche de touriste en peau de chameau sur l'épaule. Il dévisagea Melik, puis Leila, puis de nouveau Melik, en le suppliant sans ciller de ses yeux enfoncés au regard farouche. L'air désespéré du jeune homme n'avait pas de quoi troubler Melik outre mesure, car l'agence de voyage donnait sur le parvis de la principale gare ferroviaire où traînaient à longueur de journée toutes sortes d'âmes en peine. Des SDF allemands, des Asiatiques, des Arabes, des Africains, ou des Turcs comme lui, mais moins chanceux, sans parler des Kudjat en petites voitures électriques, des dealers et de leurs clients, des mendiants et de leurs chiens, et du cow-boy septuagénaire affublé d'un Stetson et d'une culotte de cheval en cuir clouté d'argent. Sans emploi pour la plupart, certains n'avaient même rien à faire sur le sol allemand, où ils étaient tout juste tolérés, selon une politique de paupérisation délibérée, jusqu'à leur expulsion sommaire, généralement à l'aube. Seuls les nouveaux arrivants ou les têtes brûlées prenaient le risque. Les clandestins plus futés évitaient la gare. Autre bonne raison de ne pas remarquer le grand échalas, la musique classique que les autorités de la gare diffusent à pleine puissance sur le parvis grâce à une rangée de haut-parleurs bien orientés, le but n'étant pas d'inspirer aux auditeurs des sentiments de paix et de bien-être, mais de les inciter à des guerres pires. En dépit de tout cela, le visage du grand échalas s'imprima sur la conscience de Melik, qui se sentit un instant honteux de son propre bonheur. Mais pourquoi donc ? Un événement inespéré venait de se produire, et il avait hâte de téléphoner à sa sœur pour lui annoncer que leur mère Leila, après 6 mois passés à soigner son mari agonisant et 1 an à le pleurer de tout son cœur, débordait de joie à l'idée d'aller assister au mariage de sa fille, se demandait quelle tenue elle allait bien pouvoir mettre, si la dot était suffisante et le marié aussi bel homme que tout le monde le prétendait, y compris la principale intéressée. Pourquoi donc Melik n'aurait-il pas dû bavarder avec sa mère sur le chemin du retour, ce qu'il fit allègrement. Mais il y avait la force d'inertie du grand échalas, se dit-il plus tard.